québécois des infrastructures. Il y a toutes sortes de questions qui vont se poser. Et le délai, Philippe, qui est annoncé, on parle de 10 ans pour construire un hôpital.
Incroyable.
Ça ne fonctionne pas, Philippe. Il y a quelque chose qui est brisé dans notre système. On essaie tous de comprendre pourquoi. Puis qui dit 10 ans, dit dépassement de coûts. On s'entend. Parce que c'est pas vrai qu'on va faire un hôpital sur 10 ans puis ça va nous coûter 5 milliards de dollars. C'est totalement impossible. Et je te parlais il y a quelques instants, je te disais que je suis allé consulter des documents sur le site de la Société québécoise des infrastructures. Ça, c'est le ministère, l'organisme qui relève de Jonathan Julien, le ministre des infrastructures. Et j'ai un document devant moi, c'est les appels d'offres à venir printemps 2024. Et l'hôpital Maisonneuve-Rosemont y apparaît, complexe hospitalier. On devait lancer les premiers appels d'offres quelque part entre juillet et septembre dernier. On avait même prédit et prévu la construction quelque part entre octobre et décembre l'année passée. Nous sommes en mai 2025. Il n'y a toujours rien qui s'est passé. Alors la question, c'est que s'est-il, qu'est-il arrivé entre ces appels d'offres annoncés pour ce projet et ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire un gouvernement qui s'est enlisé lui-même dans un bourbier qu'il a créé. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, depuis des semaines en fait, puis aujourd'hui on a connu un dénouement de ce dérapage auquel on assiste depuis des semaines et des semaines, pression des médias, pression des employés, pression de l'Association de la construction du Québec. Ils disent, écoutez, là, si ça continue, on n'y arrivera pas. Parce que là, on parle beaucoup de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, mais il y a aussi d'autres hôpitaux. Le premier ministre a référé à 30 projets qui seront, entre guillemets, débloqués. Quand tu parles de débloqués, Philippe, c'est pas des projets dont on garantit la finalité. C'est des projets, parfois, certains sont en phase planification, mais ça ne veut pas dire qu'on va les réaliser dans un échéancier mettons, sur 5 ans ou 3 ans. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y a pas que le premier ministre qui avait de la pression, ni le ministre de la Santé, les députés également. Les députés, moi, j'ai parlé à un député de la CAQ qui m'a dit, moi, il n'est pas question que mon projet soit annoncé 3 mois avant le déclenchement de la prochaine élection, là, parce que je vais perdre toute ma crédibilité. Alors, le caucus a mis de la pression sur le ministre de la Santé pour dire, hey, ça nous prend nos projets. Parce que les hôpitaux dont on parle, Philippe, c'est pas du caprice, là. C'est des hôpitaux qui sont vraiment, qui sont dus, comme on dit en bon québécois.
Ouais, je pense à l'hôpital de Mont-Laurier, là. Je me souviens d'une entrevue que j'ai réalisée avec le maire de Mont-Laurier. Puis bon, il y a beaucoup de députés caquistes dans le coin. Mais, ben, ils font quoi pour nous, là, à l'heure actuelle? Et le dossier n'avançait pas. Mais c'est drôle parce que, tu sais, on parle du 85 millions, Nathalie, qui vient d'être trouvé pour Maisonneuve-Rosemont. Puis je parlais récemment avec quelqu'un, là, qui connaît parfaitement la machine gouvernementale. Et qui me disait, écoute, pour trouver 85 millions de dollars dans le PQI, le Programme québécois des immobilisations, ce qui est 0,5% de 1%, là, n'importe qui connaît ça, là, ça va lui prendre 20 minutes. Tu peux trouver 85 millions dans un programme comme ça en 20 minutes. Tu peux rapporter une couple de trucs que tu refais.
Ben oui.
Et là, la preuve, c'est qu'on vient de le trouver là, très rapidement, alors que semble-t-il que c'était impossible. Et la grande question, c'est pourquoi on voulait pas le trouver? Pourquoi on voulait pas le trouver? Pourquoi on voulait pas aller de l'avant?
Ben moi, je pense qu'on n'a pas voulu admettre une erreur de planification qui relève de l'amateurisme. Lorsque Christian Dubé annonce 2 fois plutôt qu'une l'agrandissement, la rénovation, la construction en œuvre à Rosemont, puis qu'il nous dit en commission parlementaire cette semaine, il y a quelques jours, je n'avais pas l'autorisation du Conseil des ministres lorsque j'ai fait ces 2 annonces. Là, tu dis, attends, on est dans un contexte où on est vraiment fait preuve d'amateurisme, alors que ce gouvernement est là depuis 2018. Alors, je pense que derrière ce dérapage, le gouvernement a tout fait pour éviter d'admettre qu'il s'est trompé dans sa planification. Il a omis de dire que ces sommes nécessaires à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, finalement, ne sont pas apparues dans le programme québécois, dans le plan québécois des infrastructures. C'est comme si les bottines n'avaient pas suivi les babines. Ouais. Je le dis très, très franchement. Et c'est très dommageable pour le gouvernement parce que derrière cette crise des infrastructures, Philippe, il y a une crise de confiance à l'endroit du gouvernement de François Legault.
On parle beaucoup de Maisonneuve-Rosemont, mais tu sais, tantôt on parlait de l'hôpital de Mont-Laurier, à la Malbaie également,
Victoriaville, Athabasca, Saint-François-d'Assise, Mont-Laurier, Saint-Eustache, Pierre-Boucher, Lévis, Charlemagne, Sept-Îles, la Malbaie, Jonquière, Sainte-Marie, Notre-Dame. Il y en a, là, puis j'en oublie parce que là, j'ai 13, d'ailleurs, sur ces 13 hôpitaux. J'ajoute, hôpital Maisonneuve-Rosemont, combien sont dans des comtés péquistes? 8. 8. Alors, tu vois, c'est un dossier qui va faire très mal à la CAQ. Et je pense qu'il y a des gens qui vont s'en rappeler parce que il y a quelque chose de totalement surréaliste dans tout ça. Moi, lorsque j'ai vu les employés la semaine dernière du bloc opératoire de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont sortir pour manifester, je n'en croyais pas. Je ne croyais pas ce que je voyais à la télévision. Selon moi, c'est une première. Des infirmières qui ont fait des sit-ins, il y en a eu pour manifester face à une convention collective qui n'était pas renouvelée. On a vu des médecins qui font des moyens de pression. On en a vu. Mais là, des employés, tu sais, qui sortent avec leurs bonnets de chirurgien et leurs habits d'infirmiers, d'infirmières de bloc opératoire. Imagine l'énergie, le temps perdu, Philippe. Tout ça parce que il y a eu des tracasseries, un manque de planification, de l'amateurisme sur le plan politique, des tracasseries administratives. Puis la question que je me pose, c'est ben ça sert à quoi la Société québécoise des infrastructures si on est incapable de planifier des projets aussi importants pour le Québec? Et en matière de gouvernance, en matière de la gouvernance, on réfère à la façon dont les projets sont priorisés. Je vais te le dire directement, Philippe, il y a quelque chose de pourri dans la façon dont on établit la priorité de tous ces projets. Lorsque tu vois l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est un hôpital du tiers-monde. Puis malheureusement, il y en a une trentaine comme ça au Québec. Alors, le gouvernement, dans le fond, ne fait que récolter ce qu'il a semé dans ce dossier.
Ouais, voilà. Ben, Nathalie, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Souhaitons que cette fois-ci soit la bonne. Mais comme tu dis, il y a encore beaucoup, beaucoup de scepticisme. Merci, on se retrouve demain. C'était Nathalie Normandeau. Au retour, Dimitri Soudas est là. Puis on va commencer par parler de sirop d'érable.
Ne manquez pas la chronique municipale avec Michel Turcotte.
On va parler encore une fois du projet de l'hôtel Rimouski qui devait être entamé au cours des dernières semaines, à ce que j'ai su en fin de semaine. Donc, les travaux font l'objet d'une évaluation de la qualité à partir de critères afin de ne pas altérer le caractère du milieu. Dans le cas du centre-ville, un PIA existe. Dans le cas qui concerne l'agrandissement là, de la portion chambre, et il y a des villes là, qui ont voulu là, jouer là, avec ça. La ville de Chicoutimi, donc de Saguenay, s'est vu là, tout simplement retirer le projet puisque ça niaisait peut-être un petit peu trop à l'urbanisme là-bas. Entre le promoteur et le service d'urbanisme de la ville, il n'aurait pas du tout dû faire l'objet là, d'ailleurs des nouvelles dans les différents médias. Il faut être rassembleur dans les deux côtés. Il faut démontrer qu'on veut régler le problème, s'asseoir.
La chronique municipale, tous les lundis, 7h45. Une présentation de Réfrigération RC.
Des métaux ou un véhicule hors d'usage à recycler? Métal du Golfe à Saint-Anatelet vous les rachète. Cuivre, aluminium, acier et bien plus. En nous apportant vos métaux, vous recevez de l'argent tout en posant un geste concret pour l'environnement. C'est ça, recycler vers l'avenir. Métal du Golfe, votre partenaire pour le recyclage de métaux ferreux et non ferreux. Visitez-nous au 552 rue principale Ouest à Saint-Anatelet ou appelez-nous au 418-723-8885.
Votre entreprise est grandissante? Offrez-vous un système de téléphonie IP qui convient à votre réalité et à moindre coût grâce à Tactique Télécom. Travaillez d'où vous le souhaitez tout en restant connecté à votre entreprise. Vous avez besoin d'informer votre clientèle ou vos employés rapidement? Nous offrons le service d'installation de systèmes de sonorisation commerciale qui vous permettra également d'améliorer l'ambiance dans vos locaux. Envie d'en savoir plus? Communiquez avec nous au 418-721-7917 ou visitez le tactiquetelecom.ca.
La soirée de boxe Mont-Joli Chrysler, le samedi 10 mai 2025, à l'amphithéâtre Desjardins de Mont-Joli. 14 combats de boxe mettant en vedette des boxeurs talentueux de l'Académie de boxe BSL de Rimouski et d'ailleurs au Canada. Ouverture des portes à 18h30 et premier combat dès 19h30. Des sièges à partir de 20$, des places ringside et des tables VIP sont disponibles. Billets en vente dès le 1er mars sur ticketaccess.net et Académie de boxe BSL. Pour plus d'infos, 418-730-6914.
Sensation Plus. Ajoutez un petit plus à votre vie intime. Faites vos achats en ligne en toute discrétion et surprenez votre partenaire avec nos huiles, jouets, lingerie et plus. Partagez le plaisir. SensationPlus.com. Livraison rapide et discrète.
Paysagiste Rimouski et au bord de ma piscine, la destination de choix pour vos projets de terrassement, de piscine et de spa. Notre équipe de spécialistes cumule plus de 20 ans d'expérience dans la création d'environnements de rêve. C'est tellement agréable de se sentir bien chez soi. Nous sommes les leaders du paysagement à Rimouski. Rimouski est votre partenaire de choix pour l'entretien de votre piscine et de votre spa. Au bord de ma piscine et paysagiste Rimouski, deux entreprises, un seul endroit. À Rimouski, au 341 2e rue Est.
C'est officiel. Toute l'actualité locale est maintenant disponible en un seul endroit, inforimouski.ca. Découvrez-le dès maintenant.
FM 93 Rimouski. La radio officielle des partisans de l'Océanique de Rimouski.
Qu'on est en mesure de parler à notre ami Dimitri Soudas. Ben oui, bien sûr, Dimitri est là. Salut, Dimitri.
Je suis là. Je pensais que c'est Patrice Roy qui a coupé le micro.
Non. Comme au débat, quand il a coupé le micro à Jack Meeting. Hey, j'ai dit qu'on parlerait de sirop d'érable pour commencer ta chronique parce que tu parlais du menu, du lunch avec les deux équipes, l'équipe canadienne et l'équipe américaine à la Maison-Blanche aujourd'hui. On a parlé du dessert et c'est Catherine qui demandait si sur le financier, ou c'est Valérie, je pense, qui demandait sur le financier, le dessert qui était servi. Si le sirop d'érable était canadien ou américain. T'as pas une nouvelle là-dessus, hein?
Je vais devoir retourner à ma source, okay. Mais le meilleur sirop d'érable, de toute façon, il est canadien.
Ben voilà, t'as bien raison de le dire. Dimitri, plus sérieusement, c'était une rencontre tellement attendue aujourd'hui. Ta première impression?
Ma première impression, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est à Washington que l'histoire s'est écrite. Une rencontre très attendue entre M. Carney et le président américain. Et non, ce n'était pas une scène de House of Cards.
Non, tout à fait.
Et contre toute attente, le ton était cordial, constructif même. Il n'y a pas eu de joute verbale, pas de caméra brisée. C'était deux hommes d'État, chacun défendant ses intérêts. Mais surtout, écoutons Mark Carney sur la question de la souveraineté canadienne.
As you know from real estate, there are some places that are never for sale.
That's true.
We're sitting in one right now, you know, Buckingham Palace, that you visited as well.
That's true. And
having met with the owners of Canada over the course of the campaign last several months, it's not for sale, won't be for sale ever.
Alors voilà, c'est quand même bien envoyé, hein. Il dit, vous connaissez l'immobilier, monsieur le président, vous savez très bien qu'il y a des choses qui ne sont jamais à vendre. Et lui, Trump dit, oui, c'est vrai. Il dit, comme ici, la Maison-Blanche, c'est pas à vendre. Le palais de Buckingham, c'est pas à vendre. Et Carney ajoute, ben moi, j'ai consulté les propriétaires du Canada pendant la dernière élection. Évidemment, il faisait allusion à tous les Canadiens qu'il a rencontrés en campagne. Et je peux vous assurer que le Canada n'est pas à vendre.
Tout à fait. Donc, une mêlée de presse qui a duré quand même assez longtemps. On n'a pas eu ni l'épisode Zelensky, ni l'épisode de Keir Starmer, le premier ministre britannique, qui s'est présenté là comme Willy Wonka avec l'invitation qui était faite en or. Monsieur Carney, au nom du Canada, s'est tenu debout. Monsieur Trump ne parle plus du 51e, du gouverneur du Canada.
Ouais.
Il a même un peu, lentement mais sûrement, commencer à faire un peu marche arrière sur l'idée du 52e État sans complètement lâcher le morceau.
Il a dit là-dessus, ben it takes two to tango, hein, ça prend deux personnes pour danser.
Tout à fait.
Et là, si le Canada ne veut pas danser dans ce numéro-là, ben c'est très difficile de le faire.
Et Monsieur Carney était prêt. C'était une rencontre très importante au-delà de ce qui s'est passé devant les caméras. Selon ce qu'on me dit, la rencontre bilatérale pendant le dîner a couvert plusieurs enjeux, tant économiques que les enjeux de sécurité. Une chose est certaine, et Monsieur Carney l'a confirmé plus tard lors de sa conférence de presse, la renégociation de la relation économique entre le Canada et les États-Unis est officiellement commencée. Comment ça va se terminer, on ne le sait pas. Donald Trump a répété, on ne veut pas de vos autos.
Ouais, voilà, il était très ferme là-dessus.
Et c'est là où le mandat de M. Carney va au-delà de la négociation avec les États-Unis. Le vrai mandat du premier ministre du Canada, c'est, on le dit depuis des mois, comment réduire la dépendance commerciale du Canada des États-Unis. Et ce n'est pas une question d'aller trouver de nouvelles ententes. Les ententes sont en place, surtout l'entente de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Ce que M. Carney doit faire, et c'est ce qu'il a promis de faire, c'est de faire en sorte que le potentiel économique du Canada n'est pas bloqué avec des réglementations et des lois qui ne sont pas nécessaires. Et le débat des oléoducs, va bien sûr revenir.
Oui, et il a dit, Mark Carney, qu'il allait faire rapport de tout ça au premier ministre des provinces. Et on a appris, il y a quelques minutes à peine, là, Dimitri, qu'il y aura effectivement une rencontre demain entre M. Carney et les premiers ministres des provinces. Là. C'est à compter de midi, une rencontre virtuelle. Alors donc, M. Carney qui veut mettre ses homologues des provinces au parfum des négociations.